Bonsoir à toutes et à tous.
Bonsoir,
Maël de Calan. Je vous présente rapidement. Donc, vous avez 36 ans, ça se voit. C'est bien d'être jeune. Vous êtes élu en Bretagne. Vous êtes donc conseiller départemental du Finistère.
Absolument.
Élu municipal à Roscoff. Et vous êtes également donc président de la Fédération départementale des Républicains. Également dans le Finistère. Vous êtes maître de conférence à Sciences Po et vous animez ce qu'on appelle dans la langue du pays du Brexit un think tank, la boîte à idées, donc qui est apporte des idées justement à Alain Juppé, dont vous soutenez la campagne pour la primaire, d'où le fait également qu'Alain Juppé ait préfacé votre livre dont nous allons parler à l'instant, La vérité sur le programme du Front National. Et Alain Juppé dans la préface qui vous voit un avenir de prochain député. Donc on verra ça c'est à voir. Mais enfin, pour le moment, vous êtes là en tant que auteur de ce livre qui est un réquisitoire, entre guillemets, objectif sur le Front National. C'est-à-dire que voilà, vous avez décidé d'étudier ce programme du Front National, de le confronter à la réalité des chiffres. Et c'est assez édifiant, on va en parler. Ce qui serait bien, c'est de parler tout de suite entre la parution de votre livre et puis l'actualité. Il y a donc évidemment eu le Brexit qui a apporté beaucoup d'eau au moulin de Marine Le Pen, puisque à son tour, elle réclame justement la sortie de la France de l'Union européenne et de l'euro. C'est évidemment une partie très importante de votre livre. Donc, vous, sur le Brexit, est-ce que ça vous a étonné que le Front National s'engouffre, évidemment, dans la brèche après le résultat de ce référendum britannique ?
D'abord, bonsoir à tous. Merci, merci d'être là ce soir. Je suis en plein choc thermique, donc j'espère que vous m'excuserez. Parce qu'en Bretagne, il fait à peu près la moitié de la température bordelaise. Sur le Brexit, il y a des points communs et des divergences. Les uns et les autres étant assez prononcés. Ce qui apporte de l'eau au moulin de Marine Le Pen, c'est le précédent. On sait depuis depuis jeudi dernier qu'un pays peut sortir de l'Europe, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et donc ce précédent crédibilise en quelque sorte le projet de Marine Le Pen. Cela étant, il y a deux éléments qui, à mon sens, vont gêner le parallèle que Marine Le Pen va chercher à faire entre son programme et ce que les Anglais sont en train de mettre en œuvre. La première chose, c'est que le Brexit est en train de créer une profonde anxiété en Grande-Bretagne. Pour ceux qui lisent la presse britannique, on sait qu'il n'y a pas de plan B, que les tenants du Brexit n'ont pas la moindre idée de ce qu'il convient de faire maintenant, ni sur le plan commercial, ni sur le plan de la politique économique, sur le plan de tous les accords autres que les accords économiques qui avaient été noués avec les pays de l'Union européenne, soit avec les 27 autres pays, soit des accords bilatéraux, comme la France en a un certain nombre. Et donc cette profonde anxiété va probablement avoir un effet négatif assez prononcé sur l'économie britannique et en quelque sorte, montrer aussi ce que ça implique de rompre avec l'Union européenne. Donc c'est possible, mais est-ce que c'est si positif et si reluisant que ça ? Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'il y a une grande différence entre ce que propose de faire Mme Le Pen en termes de sortie de l'euro et de sortie de l'Europe et ce que les Anglais sont en train de faire. Si on oublie le fait qu'ils ne sont pas dans l'euro et qu'on imagine qu'ils en seraient également sortis, ce qu'est en train de faire l'Angleterre, c'est de quitter une zone de libre-échange, le grand marché commun, mais pour continuer à mener une politique économique, une politique monétaire raisonnable, qui favorise la croissance, l'enrichissement des classes moyennes, le plein emploi. Ce que propose Mme Le Pen est très différent. En matière monétaire, elle veut sortir de l'euro pour retrouver la souveraineté monétaire, mais ce qu'elle implique, ce qu'elle entend par ce terme de souveraineté monétaire, c'est de confier le nouveau franc à une banque centrale fantoche qui obéirait à un ministre complètement fantaisiste, de sorte que toute crédibilité dans la monnaie serait perdue. Donc ce qu'elle nous propose, c'est un effondrement de la monnaie, ce que l'Angleterre ne met pas en œuvre. Et si elle veut sortir de l'Europe, ça n'est pas comme les Anglais aujourd'hui pour trouver de nouveaux accords de libre-échange avec les pays de l'Europe continentale, c'est au contraire pour déclencher une guerre commerciale avec le reste du monde, y compris avec les pays européens. Donc il y a une profonde anxiété qui existe en Angleterre, qui à mon avis va durer très longtemps, va se renforcer, va diffuser en Europe d'une part, et d'autre part, les effets négatifs qu'on va constater en Angleterre seraient encore accrus en France par la politique suicidaire que Mme Le Pen veut mener sur le plan monétaire et commercial.
Alors justement, vous parlez du plan monétaire. L'une des mesures qui serait annoncée et assumée d'ailleurs hein, par le Front National, parce que ce qu'il faut rappeler, c'est que quand même, tout ce que vous citez, hein, vous ne l'inventez pas, c'est tiré du programme du Front National, c'est noir sur blanc écrit, donc c'est des éléments que vous êtes allé chercher et confronter également alors à ce moment-là à des chiffres. C'est également le retour de la bonne vieille planche à billets.
Absolument. J'aurais peut-être d'abord dû commencer par ça, par dire deux mots de la méthode que j'ai adoptée et de la raison qui m'a conduit à écrire ce petit livre. Moi, je constatais que le Front National, comme vous, hein, progressait à chaque élection, d'une part, progressait dans les intentions de vote, d'autre part, et surtout progressait parce que des zones géographiques et des catégories sociales ou des catégories socio-professionnelles dont il était jusqu'à présent absent devenaient réceptives à son discours. Ces zones géographiques, c'est tout l'ouest de la France, la Bretagne, l'Aquitaine, des régions dans lesquelles le Front National historiquement réalisait des scores très, très faibles. Et ces catégories sociales, ce sont les retraités, ce sont les cadres, ce sont les fonctionnaires qui jusqu'à présent votaient très peu FN et qui commencent à le faire et à le faire significativement. De sorte que, à partir du moment où plus aucune région et aucune catégorie sociale ne sont rétives par principe au vote FN, il n'y a plus de limite à l'ascension du Front National. Ça, c'était le premier constat que je faisais. Le deuxième constat que je faisais, c'est que le discours qu'on avait jusqu'à présent adopté pour lutter contre le Front National, un discours sur les valeurs, un discours sur les principes, qui, à partir d'une réflexion historique et politique, bah, dénonçait l'extrême droite en tant que telle, je constatais que ce discours sur les valeurs, il était de moins en moins efficace. Qu'il empêchait
qui venait
de moins
parfois
en moins.
De votre propre camp. Je pense par exemple au livre de Nathalie Kosciusko-Morizet. C'était un livre, j'allais dire, politique qui critiquait les idées du Front National. Mais j'allais dire, voilà, quand vous dites sur les grands
sur le
principes,
plan des principes.
Ils ne sont pas bien, c'est pas bien de rejeter les immigrés et tout, mais il n'y avait rien de chiffré, il n'y avait rien de.
Il n'y avait rien de précis,
concret, voilà.
C'est exactement ça. On était dans la dénonciation du Front National et pas dans la réfutation de ses arguments. Moi, je constatais que ces attaques, j'ai constaté que ces attaques sur les valeurs, elles étaient inefficaces, ce qui ne veut pas dire qu'elles soient plus légitimes. Moi, je crois que le Front National reste un parti d'extrême droite, avec ce que ça emporte de violence verbale, de populisme. D'ailleurs, depuis que j'ai écrit ce livre, j'ai pu le constater à titre très personnel. J'ai reçu des dizaines de lettres d'insultes, la plupart anonymes. J'ai reçu des milliers de tweets et de messages sur Facebook, dont la plupart étaient insultants, violents. Donc, ce discours sur les valeurs, il est probablement toujours aussi légitime, mais je constate qu'il est inefficace, il ne marche plus. Et vous le constatez probablement dans votre entourage, beaucoup de gens, vous leur dites, mais tu te rends compte, voter à l'extrême droite, vous dites, écoutez, t'es bien sympathique, mais ce sont pas des nazis, moi je vote pour le FN parce que j'en ai marre, j'ai envie de tout foutre en l'air, etc. Et donc à mesure que ce discours était de moins en moins efficace, et que le FN progressait à chaque scrutin, à mesure aussi qu'il se dédiabolisait, que Marine Le Pen excluait les éléments les plus scandaleux du FN, avait mis un terme aux attaques antisémites, au dérapage de son père, à mesure que cette dédiabolisation fonctionnait, qu'on croit ou non dans sa sincérité, hein, mais à mesure qu'elle fonctionnait, j'ai pensé, je ne suis pas le seul heureusement, hein, qu'il était temps de poursuivre ce combat sur les valeurs par un deuxième combat sur les idées, sur le programme, sur la crédibilité du Front National. Et ce d'autant plus que quand vous interrogez les Français, bon, il y a toute une partie des Français qui votent ou qui ont voté Front National, un gros tiers, et ensuite, vous avez toute une frange de l'électorat qui ne vote pas Front National, ou j'ai envie de dire qui ne vote pas encore Front National, mais qui se déclare prête à le faire, parce qu'elle adhère à un certain nombre des thèses du FN et qu'elle hésite encore à le faire pour des raisons qui sont liées à la crédibilité de son programme ou à la crédibilité de ses leaders. Et donc, c'est bien sur cette barrière, la barrière de la crédibilité, qu'il faut maintenant affronter le FN, puisque c'est probablement la dernière barrière qui les sépare des 35, 36, 37% des voix qui permettent ensuite d'accéder au pouvoir.
Alors, est-ce que paradoxalement, c'est une question un peu exprès, j'allais dire, mais est-ce que paradoxalement, est-ce que votre livre sert à quelque chose? Parce qu'on comprend bien quand on le lit, et ça se vérifie d'ailleurs au moment des élections, on a l'impression que les gens finalement votent Front National, mais sans avoir lu une seule ligne de leur programme. On vote le candidat Front National parce que, comme vous le dites, il y a un vote de ras-le-bol, de protestation, etc. Mais on a l'impression, et vous le dites vous-même, ça se voit. Et puis bon, quand on est journaliste, quand on étudie un peu les campagnes électorales, on le voit. On se demande même parfois si les candidats eux-mêmes ont lu le programme qu'on leur donne. Donc, d'une certaine façon, si les gens ne lisent pas le programme, est-ce qu'ils vont lire la vérité sur le programme du Front National?
Vous avez absolument raison. La plupart des électeurs ne lisent pas les programmes des partis politiques.
Oui,
pas seulement au FN, d'ailleurs.
Pour les partis politiques, vous avez raison.
Moi, je ne peux pas affirmer avec un degré de certitude que j'ai lu tous les programmes qui ont été sortis par les Républicains et l'UMP avant, depuis une quinzaine d'années que je fais de la politique. Mais c'est précisément pour cette raison que j'ai voulu écrire ces livres. Parce que moi, j'ai la conviction que plus on lira le programme du FN, moins on aura envie de voter pour lui. Donc ce livre, il porte un message, c'est lisez le programme du FN. Il a un programme, lisez-le, parlez-en, répandez leur message. D'ailleurs, c'est assez étonnant, moi, j'ai beaucoup débattu avec des gens du Front National, Florian Philippot, ses responsables en Bretagne, on a débattu avec Marion Maréchal Le Pen, et à chaque fois, c'est extraordinaire, à chaque fois que j'essayais de mettre le débat justement sur le plan de leur programme, eux cherchaient à botter en touche, porter le débat sur le bilan de la droite ou de la gauche au pouvoir. C'est extraordinaire. Moi, j'ai jamais vu un parti qui voulait à ce point éviter de parler de son programme. Et donc voilà, c'est précisément l'objectif de ce livre. C'est les gens votent FN, on le sait bien, non pas par une adhésion très profonde aux leaders ou aux idées, mais parce qu'ils en ont marre, marre d'une classe politique qui manque d'éthique, marre d'une classe politique qui est jugée inefficace, et les 40 dernières années sont là pour effectivement le démontrer, marre d'une classe politique dont ils estiment qu'elle est très éloignée de leurs préoccupations, qu'elle n'entend pas leurs problèmes. Donc voilà pourquoi on vote Front National. Cela étant, d'une part, il y a des gens qui votent FN et qui seront très surpris d'apprendre ce que propose le FN. Et d'autre part, il y a des gens qui hésitent à voter FN, qui ne le font pas à cause de leur programme. Et tout l'objectif est de les renforcer dans ce doute. Puis j'ajoute enfin qu'il y a aussi des gens dont je fais partie qui combattent le Front National, des journalistes qui cherchent aussi qui n'ont pas forcément le temps de le faire, à mettre le FN face à ses contradictions, et qui trouveront dans ce livre les armes, les arguments, les outils qui leur permettront de réfuter la parole du Front National. Depuis maintenant une vingtaine d'années que le FN a commencé son ascension électorale, la classe politique, elle ressemble à un passant, j'utilise cette image dans mon livre, à un passant qui serait tabassé en pleine rue. Donc la classe politique se fait tabasser, elle est responsable de tous les maux du pays, il y a aussi des choses qui vont bien en France, en revanche ça c'est pas du tout de son fait, et elle a peine à répondre au FN. L'idée c'est maintenant de lui répondre, et de lui répondre non pas au fleuret, mais sabre au clair.
Oui, c'est ça, oui. D'accord. Alors, on va revenir un peu sur quelques points que vous abordez, hein, en rentrer plus précisément dans le décortiquage que vous faites de ce programme. L'autre question que je voulais vous poser, vous êtes élu républicain, vous l'assumez, vous le dites. Vous venez, alors effectivement, vous l'avez cité aussi, d'une région, la Bretagne, qui a plutôt été épargné jusqu'à présent par le Front National. C'est vrai que le littoral atlantique, l'Ouest, pour le moment, étaient des régions, même si les dernières élections ont montré que là aussi, il y avait progression. Mais est-ce que, je pose la question crûment, est-ce que c'était un élu républicain de faire ce livre?
Alors d'abord, il n'avait pas été fait par d'autres, ce que je regrette amèrement, parce que je pense qu'on aurait pu le faire depuis au moins une dizaine d'années. Pendant très longtemps, le FN n'avait pas vraiment de programme. Enfin, c'était une sorte de patchwork de prise de position de Jean-Marie Le Pen, mais depuis...
Oui, parce que ce n'était pas un parti qui aspirait à gouverner, en plus.
Ce n'était pas un parti dont le président et la plupart des cadres aspiraient, et puis d'ailleurs imaginaient être capables de gouverner. Faut être clair, la vieille garde du Front National n'était pas du tout dans cette optique, puis on n'avait évidemment pas la capacité. C'est quelque chose qui a changé il y a une bonne dizaine d'années, quand Marine Le Pen a commencé son ascension au sein du parti. Ça s'est encore professionnalisé à l'arrivée de Florian Philippot, qui a essayé de bâtir un corps de doctrine. Donc c'est un travail qui aurait pu être fait depuis une dizaine d'années, il ne l'a pas été. Maintenant, Il est clair que ce n'est pas un ouvrage impartial. Moi, je suis un responsable politique, alors jeune, mais engagé auprès d'Alain Juppé, et je le revendique dans ce livre. Alors, d'une part,
pardon, je vous coupe juste parce que vous venez de citer Alain Juppé. Est-ce que le fait que justement, par rapport à d'autres grands responsables du RPR, puis de l'UMP, puis des Républicains, la position, disons-le quand même, d'Alain Juppé à l'égard du Front National a toujours été sans ambiguïté,
absolument,
contrairement à d'autres responsables du parti. Et on ne donnera pas de nom.
Qui sont quand même très minoritaires. Mais ce que je voulais dire, c'est que le fait d'écrire un livre sur un autre parti politique, d'une part, ne fait pas obstacle à l'objectivité. Moi, j'ai cherché à faire non pas un pamphlet, mais un livre qui soit solide, sérieux, qui soit incontestable dans ses chiffrages, dans ses démonstrations. Alors, on peut évidemment réfuter tout ce que je dis, mais il n'y a pas de raccourci. Donc, il y a des partis pris, mais il n'y a pas de mauvaise foi. À l'inverse, à chaque fois que un doute se posait sur une proposition, qu'il fallait prendre des hypothèses pour chiffrer, par exemple, une promesse de Mme Le Pen. Je vous donne un exemple. Mme Le Pen promet d'augmenter le traitement des fonctionnaires. Mais elle ne précise pas de combien, ni sur quelle durée, ni de la catégorie de fonctionnaires à laquelle ça s'applique. Donc, en fait, c'est un peu à vous de décider si vous êtes concerné par cette augmentation ou non. Et donc, comme j'ai cherché, entre autres, à mettre des chiffres sur les promesses de Mme Le Pen pour faire des additions, pour voir combien coûtait son programme, j'ai dû prendre des hypothèses. Et l'hypothèse que j'ai retenue en l'espèce, ce n'est pas une hypothèse complètement délirante. Je n'ai pas dit que Mme Le Pen allait augmenter de 10% chaque année tous les fonctionnaires de France. J'ai simplement regardé, en l'occurrence, quelle était la politique salariale de l'État jusqu'à ce qu'on gèle le point d'indice. On a décidé de stabiliser la rémunération des fonctionnaires en 2010. Ben, avant 2010, on les augmentait à peu près de 1% par an, enfin grosso modo, et j'ai retenu cette hypothèse. Donc d'une part, le fait d'être partisan ne fait pas obstacle à l'objectivité, et d'autre part, je pense même que si on adhère à l'idée que les gens votent FN parce qu'ils sont mécontents, et pas parce qu'ils lisent ce programme, eh bien, on répondra efficacement au FN, d'abord en critiquant leur programme, mais ensuite en proposant une alternative politique qui soit crédible et qui soit de nature à régler les problèmes des gens. Après, on peut mettre beaucoup de choses derrière cette étiquette, les problèmes des gens. Pour certains, c'est le chômage, ils sont très nombreux. Pour d'autres, l'insécurité urbaine, etc., etc., etc. Mais je crois au contraire qu'il y a une sorte de balancement entre la critique très forte, je pense même très violente parfois, du Front National, et en même temps la nécessité absolue, pour pas que cette critique soit stérile, de faire des propositions. Alors, on ne peut pas tout mettre dans le même livre, même si de temps en temps je donne quelques indications, moi, mon travail, j'ai imaginé comme ça, c'est ce livre qui critique, puis par ailleurs, j'ai travaillé aux côtés d'Alain Juppé sur ses propositions en matière économique, notamment. Voilà, je crois que les deux sont au contraire un tout équilibré.
Alors, moi, je me souviens en 2002, donc, quand il y avait eu le choc Jean-Marie Le Pen au deuxième tour, quand il avait fait sa déclaration, c'était une phrase qui est restée, vous vous en souvenez sûrement aussi. C'était qu'il avait voulu rassurer les Français en disant « je suis économiquement de droite, socialement de gauche ». Et on a l'impression, en relisant ce programme, que finalement, et c'est ce que vous écrivez, que justement, pour attirer le plus d'électeurs possible, recruter dans différentes catégories, donc comme vous dites, on ne pensait pas qu'il voterait Front National, comme les fonctionnaires, etc., que du coup, une espèce de clientélisme, et que, voilà, on essaie de faire à la fois un programme, vous dites-vous, carrément d'extrême-gauche sur certains points, que ça pourrait piquer à Jean-Luc Mélenchon, et puis quand même que ça reste de droite, parce qu'on essaie quand même toujours de garder dans sa clientèle électorale les petits patrons, les artisans, les agriculteurs, dont on sait que c'est plutôt un électorat de droite.
Oui, absolument. En fait, le programme du FN est pas économiquement de droite et socialement de gauche. Il y a des lignes de force, on pourra en parler tout à l'heure. Mais c'est avant tout un programme démagogique, populiste, qui cherche à cristalliser le maximum de mécontentement pour agglomérer à lui le maximum de votes, donc de clientèle électorale possible. Donc la première chose que j'ai découvert, moi, en ouvrant le programme du FN, c'est qu'il promettait à chacun exactement ce qu'il a envie d'entendre. Alors, ça ne devrait pas venir comme une grande surprise, c'est la définition des partis populistes. Vous dites à chacun ce qu'il souhaite entendre pour avoir leur vote. Mais quand vous l'écrivez noir sur blanc, ça ressort de manière extraordinaire. Je n'ai pas précisé que les deux documents sur lesquels je m'étais appuyé, c'était d'une part le programme présidentiel de Marine Le Pen, une quinzaine de pages, 150 propositions. Il a été imprimé il a été édité fin 2011. Et un deuxième document qui lui fait une centaine de pages, 106 pages exactement, qui s'appelle le programme politique du Front National. Et qui permet en 106 pages de dire beaucoup de choses. Et donc pour
parfois contradictoire d'ailleurs.
Absolument, mais c'est là où je voulais en venir. À partir du moment où vous promettez à chacun exactement ce qu'il a envie d'entendre, vous avez non pas un truc économiquement de droite et socialement de gauche, vous avez une bouillie informe dans laquelle chacun peut s'y retrouver, mais qui est minée par ses contradictions. Je peux vous en donner quelques exemples. Vous, madame, vous êtes chef d'entreprise, vous trouvez que le coût du travail est beaucoup trop élevé et vous empêche d'embaucher. Pas de problème, je vous promets, alors je n'ai plus en tête le numéro de la page, mais j'ai eu à cœur de citer à chaque fois mes sources, entre guillemets, puis en ajoutant le numéro de la page pour que ce soit incontestable, mais je vous promets la baisse du coût du travail. Mais derrière vous, vous avez quelqu'un qui est salarié, qui gagne 1 400 € ou 1 300 € net par mois, vous avez du mal à vous en sortir, je vous promets que je vais augmenter massivement votre salaire. Et le FN, une page plus loin, après avoir promis la baisse du coût du travail, promet l'augmentation massive des salaires au travers de l'augmentation de tous les salaires inférieurs à 1 500 € net mensuels de 200 € par mois. Et moi, j'ai tout simplement regardé combien de personnes gagnaient moins de 1 500 € net mensuels. Il y en a 10 millions en France. Donc, quand vous promettez à 10 millions de personnes 200 € net par mois, c'est-à-dire 2 400 € net par an, c'est une promesse à 25 milliards. Donc, je vous ai promis la baisse du coût du travail et la hausse de 24 milliards du coût du travail. Des trucs comme ça, il y en a partout. Vous êtes agricultrice, vous vous en sortez pas, il n'y a pas de problème, j'augmente les prix agricoles. Je ne vous précise pas comment je fais, parce que le FN ne rentre jamais dans ce genre de détails, mais votre voisin, lui, a du mal à faire ses courses parce que son pouvoir d'achat est très réduit, et donc je baisse les prix agricoles. Et donc à 23 pages d'écart, je liste d'ailleurs à chaque fois les prix, à 23 pages d'écart, j'augmente ou je baisse le prix du lait, du beurre, du sucre, de la farine, de la viande, c'est extraordinaire. Alors on peut continuer, il y en a plein. Vous êtes attaché à la défense des libertés individuelles et il y a une vieille tradition d'extrême droite, de paranoïa face aux moyens de surveillance de l'État. Et donc, pour cette raison, je vote contre, en 2015, la loi sur le renseignement à l'Assemblée nationale. C'est un projet de loi qui avait été déposé par le gouvernement pour surveiller Internet, créer un délit de consultation des sites djihadistes, enfin je ne rentre pas dans les détails, mais qui donne de nouveaux instruments aux services de renseignement. Donc je vote contre cette loi au nom de la défense des libertés individuelles. Et pour la même raison, je vote contre au Parlement européen début 2016 le PNR, c'est-à-dire le Passenger Name Record. C'est un fichier de surveillance des passagers aériens qui fait que si vous êtes apprenti terroriste ou vous avez beaucoup d'amis djihadistes et que vous voulez prendre l'avion, non seulement vous ne rentrerez pas dans l'avion, mais il y a un truc rouge qui va sonner et puis il y a deux policiers qui vont venir vous voir pour vous demander pourquoi est-ce que vous vouliez absolument prendre l'avion. Donc ça s'appelle le PNR. Donc le FN a voté contre ces deux instruments qui étaient pourtant des instruments de lutte antiterroriste qui étaient demandés par la plupart des services de renseignement en Europe. Donc, mais votre voisine, elle est très attachée à la lutte contre le terrorisme et donc je vais faire de grandes déclarations tonitruantes sur les terroristes qui vont enfin être matés. Donc vous êtes pour et contre à peu près tout et son contraire pour agglomérer le plus de clientèle électorale possible et le programme du FN en est rempli. Juste un dernier exemple, là, sur dans le train pour Bordeaux, je regardais des tweets de Valéran de Saint-Just, qui est un des principaux responsables du FN,
chef de file à Paris,
trésorier du Front National et chef de file à Paris en Île-de-France, qui expliquait de manière extrêmement bonhomme que le programme économique du Front National voulait faire la part belle à la libre entreprise, à l'esprit d'entreprise, et voilà, il y a une espèce de tautologie. Il répétait ça trois fois, et je lui ai répondu sur Twitter avec les 5, 6 ou 7 éléments qui contredisent, mais frontalement, ce qu'il indiquait. C'est-à-dire, le FN est favorable aux nationalisations dans une partie de l'économie, il est favorable au contrôle des prix dans une autre partie de l'économie, les transports, l'énergie, tout ça est écrit noir sur blanc dans leur programme. Le Front National est favorable à l'augmentation du coût du travail, je l'ai dit. Il liste toute une série d'impôts qu'il souhaite augmenter. Et donc, voilà, le FN augmente ou baisse les impôts en fonction de la page que vous ouvrez. Donc, si vous êtes plutôt pour les baisses d'impôts, pas de problème. Vous lirez que le FN va baisser vos impôts. Si, en revanche, vous trouvez que les grandes entreprises ne payent pas assez d'impôts, ben, j'augmenterai les impôts qui pèsent sur les grandes entreprises. Le Front National est favorable à la simplification normative. Donc on va simplifier, ils ont un truc qui s'appelle la grande réforme de la simplification, Mais en même temps, le Front National, quasiment à chaque page de son programme, prévoit des contraintes nouvelles. Une contrainte très connue, c'est la préférence nationale à l'embauche, qui fait qu'avant d'avoir le droit d'embaucher quelqu'un qui n'a pas la nationalité française, il y a quand même plusieurs millions d'immigrés en France, américains, africains, enfin de différents pays d'Afrique, etc. Et avant de pouvoir leur offrir un emploi, il y a toute une série de contraintes, vous allez devoir vérifier à plusieurs reprises que cet emploi ne pourrait pas être pourvu par un Français de souche, si possible. Et donc, vous êtes pour la simplification et en même temps, vous promettez plus de complexité.
Alors, vous ne l'avez pas mentionné, mais un des points aussi économiques importants du Front National, c'est le retour à la retraite à 60 ans. C'est quasiment le seul parti, également avec Mélenchon, qui prône le retour de la retraite à 60 ans, que vous, du coup, vous chiffrez à plusieurs milliards, quoi. De toute façon, c'est vrai que ça, à chaque fois, ça coûte plusieurs milliards. Mais également, pour revenir au terrorisme, ce que vous mentionnez également, parce que vous êtes allé à la recherche des textes, c'est que, contrairement à ce que dit Marine Le Pen, qui dit que ça fait depuis toujours qu'il dénonce le terrorisme, en fait, c'est très récent, quoi. Le référence au terrorisme dans les textes, ça ne date que depuis 2012, même pas, quoi.
Ah oui, absolument, même pas. Il y a des choses extraordinaires. Le problème, c'est que quand vous racontez tout et son contraire, mais que vous imprimez un programme, les programmes restent. Et donc, vous pouvez vous y référer.
Ça, c'est pour tous les hommes politiques.
Hein, oui, mais alors, le Front National n'a pas le monopole de la démagogie et des revirements, mais enfin, le Front National a professionnalisé et industrialisé les revirements et la démagogie. Ouais. Effectivement, je vous en donne deux exemples qui sont absolument surréalistes pour ceux qui suivent les déclarations du FN. C'est le terrorisme et le Qatar. Le FN dit, mais on l'a toujours dit, l'immigration mène à l'islamisation, qui mène à la radicalisation, qui mène au terrorisme. Ça fait des années qu'on le répète. Et en fait, quand on lit les 106 pages du programme du FN en 2012, pourtant il y a déjà eu plusieurs attentats terroristes. Hein, il y en a eu en 1995-1996. En 2011, il y a eu Mohamed Merah. Enfin, on ne découvre pas le terrorisme en 2011. Et pourtant, le FN ne le mentionne qu'une seule fois, et pas du tout pour parler de la menace terroriste en France, mais pour parler du risque terroriste au Proche-Orient. Donc voilà un parti qui aujourd'hui dit « mais ça fait 15 ans qu'on dénonce le risque terroriste en France », c'est tout simplement faux. Il y a un deuxième exemple qui est extraordinaire, c'est le Qatar. Vous savez que Marine Le Pen s'est rendue célèbre il y a 2 ans pour avoir affirmé que la France était la catin du Qatar, qu'on s'était vendu à cet émirat du Moyen-Orient. Et en 2011, dans son programme, le Front National a une attitude qui est très différente. Il regrette au contraire qu'on n'ait pas davantage de liens avec le Qatar. Il dit, voilà, la politique arabe de la France est plus qu'elle a été, il faut qu'on la relance. Et donc, il faut qu'on relance nos liens avec tous les pays du Moyen-Orient, et notamment avec le Qatar, c'est extraordinaire. Je reviens sur une chose que vous avez dit un tout petit peu plus tôt, c'est la retraite à 60 ans. Parce que j'ai dit qu'une des lignes de force du programme du FN, c'était les contradictions. Un chapitre qui est consacré, c'est assez marrant à lire. Et puis par ailleurs, c'est assez efficace quand on est confronté à un responsable politique du Front National ou à un électeur du FN. Parce que assez facilement, vous pouvez les déstabiliser. Ils vous font de grandes leçons de lutte contre le terrorisme. Vous leur demandez pourquoi est-ce qu'ils ont voté à 2 reprises contre des instruments majeurs de lutte antiterroriste. Donc il y a les contradictions, mais il y a une deuxième ligne de force qui m'a beaucoup d'ailleurs surprise, qui est le laxisme. Et je la mentionne parce que la plupart des gens qui votent FN le font parce qu'ils imaginent que le FN, c'est un parti d'ordre. C'est un parti qui va serrer les boulons, qui va remettre la France à l'endroit, qui va mettre un terme à la chienlit ambiante. Enfin, il y a cette idée que le FN, c'est l'ordre. Donc, on va enfin taper du poing sur la table. Et en réalité, quand vous lisez le programme du Front National, tout n'est que laxisme. Pour le dire différemment, à chaque fois que le Front National a été confronté dans l'histoire récente à un choix courageux, à une décision difficile, il a fait le choix du laxisme. Vous avez cité les propositions du FN de revenir à la retraite à 60 ans. Avant même de regarder leur programme, moi j'ai regardé, il y a eu 4 réformes majeures des retraites, elles ont toutes été mises en œuvre par la droite, en 93, en 2003, en 2008 et en 2010. On a de cette manière porter l'âge de départ à la retraite de 60 à 62 ans, bientôt 63, si Alain Juppé est le président de la République, 65 ans. La durée de cotisation est passée de 37 années et demie à 42 ans, bientôt 43. Ce sont ces réformes qu'on peut contester, hein, je l'admets volontiers, ce sont ces réformes qui ont évité au régime de retraite de faire faillite au début des années 2000, et de faire en sorte que les retraites soient toujours versées. Bon, je constate qu'à chaque fois, le FN s'y est opposé. Et dans son programme, il promet effectivement de revenir à la retraite à 60 ans, avec 40 annuités de cotisation, et ça coûte 18 milliards d'euros. Autre exemple, il y a eu une réforme de la sécurité sociale, et notamment de l'assurance maladie, qui a été menée en 1996 par Juppé. Le FN s'y opposait à l'époque, et promet dans son programme de revenir sur le déremboursement des médicaments, les franchises quand on va chez le médecin, la fermeture de services hospitaliers dans les petites villes, etc. Et des exemples comme ça, il y en a plein. Des promesses qui coûtent une fortune et qui ne sont pas financées, il y en a des dizaines, que j'ai cherché à chiffrer. Et à chaque fois, je vous le disais tout à l'heure, avec des hypothèses assez raisonnables en réalité. En prenant des hypothèses qui, jusqu'à présent, n'ont pas été contestées par le FN, des hypothèses que j'explicite, le FN veut porter le budget de la défense à 2% du PIB. Moi, d'ailleurs, je ne conteste pas toutes leurs propositions. Moi, je suis assez en phase avec ça. Porter les dépenses de défense à 2% du PIB, c'est l'objectif qu'a fixé l'OTAN à ses membres. Bon, c'est très cher, ça va prendre du temps. Mais voilà, moi, je ne conteste pas cette idée. La seule chose que je dis, c'est que quand on fait une promesse, il faut la chiffrer et puis tenir un compteur, faire des additions. Donc ces additions, Mme Le Pen ne les fait pas, moi je les ai faites pour elle, et j'arrive à un chiffre astronomique qui est de 1500 milliards d'euros de dépenses supplémentaires en 5 ans. C'est-à-dire que Mme Le Pen, quand on fait les plus et les moins, elle augmente certains impôts, elle en baisse d'autres, elle augmente certaines dépenses, elle en baisse d'autres, et quand vous faites les additions, on porterait la dette de 2100 milliards, qui est son montant actuel, près de 100% du PIB, à 3600 milliards au bout de 5 ans. Et encore une fois, bon, j'admets tout à fait qu'on conteste mes chiffres, mais il faut les contester avec des hypothèses qui seraient différentes. Et le déficit serait porté de 3,5% du PIB, ce qui est son montant actuel, 70 milliards d'euros, à près de 10% du PIB. Ce qui est d'ailleurs 3600 milliards, ça fait près de 175% du PIB. Une dette à 175% du PIB et un déficit à 10% du PIB, ce sont les montants de dette et de déficit qui sont ceux de la Grèce avant qu'elle fasse faillite. Enfin, donc le laxisme qui irrigue tout le programme du FN est absolument flagrant quand on lit ce programme et mérite, à mon sens, d'être dénoncé auprès de tous ces électeurs qui sont inquiets de la situation des finances publiques.
Alors finalement, la réponse, et vous le mentionnez, quand on la met devant les contradictions et surtout les dépenses énormes que ça va générer, la réponse classique et qui marche ailleurs, qui a été aussi un peu la réponse en Angleterre aussi à la victoire du Brexit, c'est l'immigration. C'est l'immigration qui coûte cher. À partir du moment où on inverse les flux migratoires, où on réduit l'immigration, etc., hop, ça va coûter moins cher. Et autre chose qui marche aussi et qui a de plus en plus d'écho, d'ailleurs sur des chiffres là aussi incontestables et vous ne les contestez pas, c'est que c'est vrai que la France donne beaucoup plus à l'Europe qu'elle n'en reçoit. Et que donc forcément, c'est quelque chose qui aux yeux des gens, quand on vit dans un pays qui est quand même en mauvais état économique, de se dire, ah ben oui, ben voilà, l'Europe... Je crois que c'est 7 milliards de manque à gagner. Pardon pour l'expression, c'est pas exactement ça, mais enfin, en tout cas, la France est en perte nette de 7 milliards par rapport à l'Europe. Donc ça, c'est des choses qui effectivement ont un écho dans un électorat de gens qui vit difficilement et qui vote de plus en plus Front National.
Oui. Alors sur la contribution de la France à l'Europe, effectivement, il y a une contribution nette de la France qui est de l'ordre de 6 milliards d'euros, 6-7 milliards, c'est-à-dire qu'on contribue 14 et on reçoit 7. L'ordre de grandeur doit être celui-là. Et les 7 sont essentiellement des aides liées à la politique agricole commune. Cette contribution existe, mais elle n'est pas massive. C'est 7 milliards rapportés au PIB de la France qui est de un peu plus de 2 000 milliards d'euros par rapport à la dépense publique, ce qu'on dépense chaque année, 1 200 milliards d'euros. Par rapport au service de la dette, 42 milliards d'euros. Donc ça existe, c'est significatif. C'est aussi ça qui nous permet d'être, les décideurs, les principaux décideurs en Europe. C'est-à-dire si la France et l'Allemagne, avec un peu l'Italie, donnent le là pour les 28, c'est parce que ce sont les plus grands pays et aussi parce que ce sont les principaux contributeurs à la hauteur de leur puissance économique. Donc c'est ça qui assoit notre autorité en Europe et ensuite c'est notre autorité en Europe qui nous permet de démultiplier nos forces dans le vaste monde. Enfin, Alain Juppé, quand il parle de l'Europe, commence par rappeler un peu l'environnement dans lequel on vit, qui est absolument chaotique, sur le plan géopolitique, évidemment. Il y a la guerre à l'Est, tout le Proche-Orient qui implose, l'Algérie qui court un risque très grave de déstabilisation à la suite dans la foulée de la disparition hein, de Bouteflika, en tout cas de sa disparition de la scène politique, le Sahel qui est devenu une zone, un chaudron bouillant, donc instabilité géopolitique, instabilité monétaire, je m'éloigne un peu du sujet, mais il y a quand même un lien instabilité monétaire avec une création de monnaie par la Banque Centrale Européenne et la Banque Fédérale Américaine extraordinaire et qui plonge l'ensemble des économies développées dans une situation très dangereuse. Très, très dangereuse. Donc instabilité géopolitique, instabilité monétaire, instabilité économique, avec la plupart des grands émergents sur lesquels on comptait quand même pour tirer les exportations qui ralentissent à peu près tous au même moment. Donc un monde qui est devenu extraordinairement instable et probablement beaucoup plus dangereux qu'il l'était il y a encore 5 ou 10 ans, dans lequel la France, si elle est seule, est très fragile, et ce d'autant plus qu'elle ne s'est pas réformée depuis 30 ans, qu'elle est fragile sur le plan économique, que sa société est devenue assez fragile aussi, de sorte que notre place en Europe et la stabilité géopolitique, économique et monétaire que nous offre notre appartenance à l'Union européenne a une valeur extraordinaire pour la France. Donc cette contribution, elle existe, mais elle est moins importante qu'on l'imagine. Certainement sans aucun rapport avec ce qui s'est dit au Royaume-Uni pendant la campagne. Vous vous souvenez des 350 millions de livres, je ne sais plus si c'était par semaine ou par mois,
Par
semaine,
semaine,
soi-disant, qui était la contribution nette du Royaume-Uni qui allait abonder le budget de la sécurité sociale britannique et dont Nigel Farage, et là l'un des leaders du
Oui, aujourd'hui
livre,
que c'était un
a
bobard,
annoncé
quoi.
le lendemain du référendum que c'était un mensonge. Bon, alors ces mensonges. Voilà pour la contribution européenne. Maintenant, il est vrai que le Front National est un petit peu gêné aux entournures par toutes les promesses qu'il multiplie. Je vous dis que Mme Le Pen ne fait pas d'addition, c'est vrai, dans le sens où il n'y a pas un document qui retracerait de manière systématique toutes les promesses qu'elle réalise, toutes les promesses qu'elle réalise. J'ai cité la retraite à 60 ans, j'aurais pu évoquer le financement de la dépendance, une trentaine de milliards d'euros au bout de 10 ans. J'ai cité le budget de la défense, pardon, mais j'aurais pu citer la création d'un revenu parental. Madame Le Pen promet 80% du SMIC à toutes les femmes ou tous les hommes qui souhaitent s'arrêter de travailler pendant 3 ans. Enfin, c'est un coût extraordinaire. Donc le FN est un peu gêné aux entournures parce qu'il perçoit bien qu'on ne peut pas quand même promettre sans qu'il y ait de conséquences. Et donc le FN cherche, d'une certaine manière, à boucler son raisonnement. Et voilà, je promets énormément, il faut quand même qu'en face, j'ai des recettes. Et ces recettes, il y en a trois essentiellement, qui sont des recettes miracles, mais qui ne verraient jamais le jour. Première recette miracle, ce sont les immigrés. Alors les immigrés, on pourra en parler, mais c'est pour le FN et depuis très longtemps.
Ça, j'allais dire, c'est l'ADN du Front
C'est l'ADN
National,
du FN, mais au plan programmatique, c'est la cause et la solution à tous les problèmes, les immigrés. C'est la cause du chômage. Et c'est la solution au chômage. 3 millions d'immigrés, 3 millions de chômeurs. Bon, ben, on n'a pas besoin d'être prix Nobel pour se dire que si on fout dehors les 3 millions d'immigrés, il n'y a plus de chômage. Mais de la même manière, si on parle de finances publiques, le FN chiffre de manière absolument fantaisiste le coût de l'immigration à 70 milliards d'euros. Qu'il met en face du déficit qui s'élève cette année à 70 milliards d'euros. Donc 70 milliards d'euros de déficit, 70 milliards d'euros le coût de l'immigration. Bon, là aussi, on se dit que si on se débarrasse des immigrés, il n'y a plus de déficit. Donc c'est la cause et la solution à tous les problèmes. Tout ça est absolument grotesque. Je cherche à le démontrer dans ce livre. Il y a des problèmes liés à l'immigration, à nos capacités d'accueil qui ne suivent pas, à nos capacités d'intégration. Qu'on parle du logement, du service public de l'éducation nationale. Bon, la France doit pouvoir décider qui rentre et qui ne rentre pas dans le cadre d'une immigration choisie. C'est ce que propose Alain Juppé en s'inspirant du modèle canadien dans lequel chaque année des quotas d'immigration sont votés par le Parlement. On peut toujours avoir de...
Oui, sauf que vous écrivez vous-même quand même que jamais un État n'est capable de limiter l'immigration quand même.
Alors, ce n'est pas exactement ce que je dis, mais oui, juste pour finir sur le coût de l'immigration, je voulais simplement dire que le coût de l'immigration n'a jamais été chiffré par personne. Et il y a des centaines d'évaluations, j'allais dire des milliers, c'est un peu exagéré, qui existent sur le sujet, qui disent que le coût de l'immigration, alors ça surprendra peut-être certains d'entre vous, et puis c'est, les électeurs du FN bondiront en m'entendant, mais le coût de l'immigration est à peu près nul, dans le sens où il y a un coût qui existe, la population immigrée, les populations immigrées dans à peu près tous les pays à toutes les époques sont plus pauvres, moins formées que la moyenne, donc ça coûte. Surtout si votre système social est très généreux, ce qui est le cas du système social français, ça coûte. Mais en même temps, ça rapporte, parce que les immigrés travaillent. C'est une population qui est beaucoup plus jeune que la moyenne, beaucoup plus jeune que la moyenne. Donc il y a beaucoup moins de retraités que la moyenne. Je rappelle que 1 euro sur 4 de la dépense publique, ce sont des dépenses de retraite. Donc là, il n'y a quasiment pas d'immigrés dans ces dépenses-là. Et ce sont des gens qui, certes, sont en partie au chômage, mais il y en a aussi beaucoup qui ne sont pas au chômage, qui bossent, qui payent des impôts et qui tirent en réalité assez peu sur les services publics. Oui, sur les dépenses de logement et sur les dépenses de solidarité, mais assez peu sur d'autres dépenses publiques, notamment les dépenses de retraite. Bon, je ne rentre pas dans les détails, mais j'essaie de démontrer dans ce livre que le coût de l'immigration est, pour la France, à peu près nul. Il y a des retraites, il y a des rentrées, il y a des dépenses, et les deux s'équilibrent. Donc les 70 milliards de recettes miracles du Front National ne rentreront tout simplement jamais, y compris si on, entre guillemets, se débarrasse de toutes les populations immigrées et si on les renvoie chez eux. À l'inverse.
Vous dites que vous allez faire bondir au Front National. Je pense que vous allez faire bondir, y compris dans votre propre parti aussi.
Hein. On peut vouloir, limiter les flux migratoires pour plein de raisons, liées notamment à nos capacités d'intégration qui ne suivent pas, et en même temps dire que ça n'est pas une question de finances publiques. On peut vouloir limiter les flux migratoires, mais en revanche, il n'y aura pas d'impact ni négatif ni positif sur les finances publiques. Donc on ne peut pas financer la retraite à 60 ans, si vous voulez, par l'immigration zéro. Alors après, sur l'immigration, puisqu'on en parle, moi je dis deux choses essentiellement. Enfin, un peu plus, mais il y a deux choses que je voudrais partager. La première, c'est que l'immigration zéro serait une sorte de suicide pour la France. Et je m'explique. Aujourd'hui, il y a 200 000 personnes qui rentrent légalement sur le territoire français. Chaque année, il y a 200 000 personnes, en dehors des touristes, à qui on donne un titre de séjour qui leur donne droit de rester 1 an, 5 ans ou 10 ans. Donc le FN veut les faire passer à zéro, ou plutôt à 10 000, pour être tout à fait précis. Donc moi, je suis simplement allé regarder qui étaient ces 200 000 personnes qu'on veut empêcher de faire rentrer sur le territoire. Il y a d'abord 20 000 contrats de travail, un peu plus d'ailleurs. Ce sont des expats, des gens qui sont envoyés par des boîtes américaines, japonaises, peu importe, africaines. Enfin, ce sont des gens qui rentrent avec un contrat de travail, qui sont en général très formés, qui ont un pouvoir d'achat assez fort, et qu'on veut empêcher de rentrer, parce que l'immigration zéro, les 20 000 ne rentrent plus. Donc concrètement, ça veut dire qu'on se prive de 20 à 25 000 personnes qui ont un pouvoir d'achat, d'une part, et puis d'autre part, on se prive d'investissements qui ne seront plus réalisés en France. Parce que de la même manière que quand... Total crée une filiale au Nigeria, eh bien Total a envie que sa filiale soit dirigée par des cadres français. Eh bien, quand Walmart ou peu importe, Toyota crée des filiales en France, ils veulent que leur cadre supérieur soit japonais. Si vous les interdisez de le faire, eh bien, ils créeront leur entreprise non plus en France, mais en Allemagne, en Belgique, en Italie, en Espagne, etc. Donc 25 000 contrats de travail. Ensuite, il y a 60 000 étudiants et nos universités se battent pour les attirer. C'est devenu pour elles une question de vie ou de mort. Parce que le jour où on arrête de faire rentrer des étudiants, on arrête d'en envoyer à l'étranger, de sorte qu'il n'y a plus d'échange, ni dans un sens ni dans l'autre, entre la France et le reste du monde sur le plan universitaire, et donc que nos diplômes ne valent plus rien en dehors des frontières françaises. Donc l'immigration zéro, c'est-à-dire l'arrêt de l'accueil d'étudiants en France, c'est un suicide pour nos universités, etc.
Parce que Marine Le Pen, quand elle dit qu'elle veut l'immigration zéro, elle dit « oui, mais je ne pense pas aux étudiants, je ne pense pas… »
Absolument.
Enfin, on sait à qui elle pense.
Je ne pense pas aux étudiants, je ne pense pas aux cadres. Mais déjà, il faudrait commencer par arrêter de parler d'immigration zéro, mais parler de l'immigration 100 000. Mais ça, c'est un peu moins vendeur politiquement, l'immigration 100 000. L'immigration zéro, ça fait plus net. Mais donc, c'est soit un mensonge, soit un suicide. Ensuite, effectivement, elle pense à qui, Madame Le Pen? Elle pense au regroupement familial. C'est-à-dire au droit qu'ont les immigrés établis légalement en France depuis plus de 5 ans et qui ont les ressources et le logement qui permettent de le faire, de faire venir en France leurs enfants quand ils en ont et qui sont à l'étranger, ou leur conjoint, et beaucoup plus difficilement, mais ça existe, leurs parents. Et ben moi, j'ai regardé à combien s'élevait le regroupement familial lié aux immigrés. Parce que vous pouvez aussi le faire quand vous êtes français. Mais ce sont des mariages binationaux, et ça, je pense que personne ne le remet en cause, même pas le Front National. Et donc, le regroupement familial lié aux immigrés, c'est 50 à 60 000 personnes chaque année. Donc, voilà, Madame Le Pen, elle devrait être partisane de l'immigration 140 000 et pas de l'immigration zéro. Et j'en parle beaucoup plus librement, d'autant plus librement qu'à droite, on pense aussi qu'il faut limiter le regroupement familial. Non pas le faire disparaître, mais le limiter pour être sûr, et puis mieux le contrôler pour être sûr que les gens qui en font, qui demandent à exercer le bénéfice de ce droit ont effectivement les ressources, le logement qui permettent de le faire et de s'intégrer dans de bonnes conditions. Donc on peut vouloir limiter le regroupement familial sans prétendre l'interdire.
Alors, encore une question. Finalement, est-ce que ce que vous dites du programme du Front National, qui est assez édifiant, est-ce que c'est aussi quand même la preuve que le FN n'arrive pas à recruter parmi ce qu'on appelle les experts, les hauts fonctionnaires qui alors ils ont recruté, bon, voilà, et Florian Philippot, on l'a dit, il était narque, etc. C'est un peu la tête pensante du Front National. Mais enfin, vous citez par exemple l'expert économique du Front National, Bernard Monod, quand vous citez ce qu'il dit, quand même, qui dit que par exemple, ce n'est pas très grave si les banques françaises font faillite, ça fait un peu froid dans le dos, quoi. C'est-à-dire, c'est l'expert économique du Front National et il dit, si les banques françaises font faillite, c'est pas grave, on les rachètera ou l'État les rachètera. Enfin, c'est assez inquiétant quand même ce genre de phrase. Donc le problème du Front National, c'est ça, c'est qu'il manque finalement d'un corpus de gens qui montrent qu'il n'a pas franchi le plafond de verre qui fait que maintenant, comme le PS en 81, voilà, il y a les cerveaux, j'allais dire, adhèrent au Front National.
Oui, non, je pense que ce n'est pas un problème d'expertise, même si c'est un problème qui se pose à eux, c'est un problème de nature. Juste avant, effectivement, vous avez cité quelques éléments du programme économique du Front National, on ne va pas rentrer dans le détail, mais le FN a un plan de sortie de l'euro qui est encore moins précis que le plan de sortie de l'Europe des tenants du Brexit. Là, tout le monde constate en Grande-Bretagne qu'en fait, ni Nigel Farage ni Boris Johnson n'avaient la moindre idée de ce qu'il fallait faire après le vote s'il était négatif. Bah, le Front National, c'est encore plus rocambolesque. Leur plan de sortie de l'euro, ça tient en 3 pages. Il y a 12 propositions. Et en 3 pages, ils nous expliquent voilà, ce qu'ils vont faire. Enfin, c'est absolument extraordinaire, alors que c'est un des sujets les plus complexes. Donc il y a une désinvolture en général, qui est probablement liée à un manque d'expertise, mais ce n'est pas le principal problème. Le principal problème, c'est un problème de nature politique. C'est-à-dire, quand vous êtes un parti populiste qui consiste à dénoncer tout ce qui dysfonctionne en France, sans aucun souci de cohérence, d'une part, d'autre part, que vous êtes un parti d'essence xénophobe qui est méfiant du reste du monde, des échanges, et ça irrigue tout leur programme économique qui est très protectionniste, qui veut lancer une guerre commerciale, je le disais tout à l'heure, avec le reste du monde. Quand fondamentalement vous pensez que la politique économique que vous prenez, c'est une politique économique qui n'est mise en œuvre par quasiment aucun pays dans le monde, si ce n'est le Venezuela, l'Algérie, le Zimbabwe, l'Argentine jusqu'à une date récente, que des pays qui se sont effondrés, dans lesquels les classes moyennes sont ruinées, dans lesquels la monnaie n'a plus aucune valeur. Donc quand vous êtes un parti populiste qui a ses idées baroques, vous pouvez avoir les meilleurs experts du monde, enfin on peut s'y mettre à une vingtaine, vous n'arriverez pas à produire un programme qui tienne la route. C'est impossible. Et c'est d'ailleurs, en réalité, la malédiction des partis populistes. Ils montent dans les sondages et scrutin après scrutin parce qu'ils agglomèrent beaucoup de mécontentement, mais c'est aussi ça qui tient lieu à un moment de plafond de verre, c'est-à-dire que les gens se rendent compte que l'agglomération de mécontentement ne peut pas faire un programme de gouvernement. Donc je pense que ce n'est pas une question d'expertise, c'est inhérent à la nature même du programme de
FN. Cyniquement, on peut quand même considérer que malgré ce programme, comme vous dites, rocambolesque, le FN continue de monter dans les élections. On l'a vu aux dernières élections. Et que les dernières élections montrent surtout aussi que les villes qui ont été conquises par le Front National À deux ou trois exceptions près, prenons Béziers par exemple, aux exemples régionales, le FN a fait un meilleur score que le co municipal. Donc on pourrait considérer que les électeurs ne sont pas mécontents de ce que fait le Front National.
Alors, à l'échelle d'une ville, c'est assez compliqué de dresser un parallèle, parce que les pouvoirs du maire ne sont pas ceux du président de la République. Ce sont des toutes petites agglomérations dans lesquelles d'ailleurs le FN ne met pas en œuvre, ou alors uniquement de manière symbolique, son programme. Son programme, c'est un programme national. Et bon, quand à Béziers, Robert Ménard repeint les bancs, ou à Hénin-Beaumont nettoie les rues, bon, bah, c'est pas un programme de gauche, de droite, c'est un programme de bonne gestion. Après, il y a des décisions symboliques qui sont prises, qui en général d'ailleurs sont assez lamentables. Béziers en offre une triste illustration, mais les municipalités du FN ne sont pas un laboratoire du programme du FN. En revanche, il y a des laboratoires à l'étranger. En matière économique, je citais tout à l'heure le Venezuela, ce que je disais à M. Philippot à la télé l'autre jour, après qu'il m'ait doctement expliqué ce qu'ils allaient faire. Bon, ben, j'ai dit, ok, très bien, les barrières commerciales, les barrières protectionnistes et la guerre commerciale, l'augmentation massive des salaires, la politique monétaire qui consiste à faire tourner la planche à billets pour financer la déficit, l'augmentation des impôts sur les grandes entreprises, la nationalisation d'une partie de l'économie et les prix administrés dans une autre partie, tout ça, là, vous me dites que ça marche très bien. Moi, je constate que cette politique est, mais point par point, mise en œuvre en ce moment, depuis une quinzaine d'années, au Venezuela, qui n'était pas un pays du tiers-monde. Hein. Le Venezuela, c'était une économie pas très diversifiée, mais qui était assez robuste. Il y avait une vraie classe moyenne, qui n'était pas pauvre. Il y avait des vraies universités, qui avaient un vrai rayonnement, peut-être pas international, mais en tout cas continental. Et c'est un pays qui s'est effondré le jour où on a mis en œuvre la politique économique que préconise Mme Le Pen. Le Zimbabwe, même chose, ce n'est pas un pays du tiers-monde, le Zimbabwe. Ça l'est devenu en 10 ans parce qu'on a mis en œuvre une politique économique que préconise Mme Le Pen pour la France. Donc les municipalités FN ne sont pas des laboratoires, mais on a des laboratoires autour de nous qui, à chaque fois, soulignent qu'on a ruiné les classes moyennes, qu'on a ruiné les épargnants, qu'on a ruiné les retraités et qu'on a ruiné l'État. Et donc moi, je pense que c'est ce qu'il faut répéter débat après débat, et dans l'année qui vient, à chaque fois qu'on est confronté à un électeur du FN, c'est « voulez-vous vraiment ?» Et ensuite, en fonction d'un interlocuteur qui est en face de vous, trouver l'exemple qui convient, mais « voulez-vous vraiment qu'on porte la dette à 3600 milliards d'euros et qu'on fasse courir le risque d'une faillite de l'État ? Voulez-vous vraiment, vous êtes chef d'entreprise d'une petite PME qui exporte ou qui importe d'ailleurs, voulez-vous vraiment qu'on lance une guerre commerciale avec l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne et l'Angleterre ? Est-ce que vous le voulez vraiment ? Vous êtes partisan d'une simplification administrative parce que vous n'en sortez plus, vous êtes chef d'une PME dans le sud de la France, voulez-vous vraiment qu'on mette en œuvre la préférence nationale qui va vous empêcher d'embaucher, qui va empêcher Pôle emploi d'ailleurs de vous proposer des salariés, voulez-vous vraiment qu'on revienne au contrôle des prix, c'est-à-dire à une armée d'inspecteurs qui va venir comme dans les années 60 avec des liasses de formulaires pour s'assurer que vous avez bien vendu votre baguette au prix qui était fixé par le gouvernement par décret ? Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Je pense que plus on lira le programme du FN, moins on aura envie de voter pour lui. Ce petit livre, évidemment, n'est qu'une pierre modeste à l'édifice, mais qui a vocation à créer un effet boule de neige. Ce livre, je l'ai écrit avant tout pour les journalistes, les responsables politiques qui, pendant un an, vont débattre avec le Front National. Peut-être qu'Alain Juppé, si c'est lui qui remporte la primaire, sera amené à débattre face à Marine Le Pen. L'objectif est, avec un peu d'avance, de voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Il y a des raisonnements dans ce livre dont j'ai constaté, on allait assez vite, mais dont j'ai constaté en débat qu'ils étaient complètement inopérants parce que vous perdez dans la complexité. Le Front National vous tabasse alors même que vous n'avez pas cité votre deuxième argument. Donc il y a des choses qui ne marchent pas dans la vie politique. Il y a des choses qui marchent assez bien. Les contradictions, ça marche assez bien. Le laxisme, ça marche assez bien. Montrer qu'il y a des laboratoires de la politique économique du FN, ça marche assez bien. Donc l'idée, c'est d'essayer d'expliquer aux Français le chaos économique et social et le climat de guerre civile dans lequel Mme Le Pen plongerait la France.
Merci beaucoup, Maël de Calan. Merci à vous d'avoir assisté à l'entretien. Bonne soirée.